Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être de nouveau avec vous. Merci. Oui, c'est vrai. J'étais absent 3 dimanches de suite, là, c'est assez rare. Il y a 3 dimanches, j'étais à Douai, où j'ai apporté un message au culte dans le Nord. Et puis les 2 dimanches qui ont suivi, j'étais en Écosse. J'ai prêché dimanche dernier en anglais, le dimanche avant en anglais. Et ma femme m'a dit, mais David, tu as sorti 1 ou 2 mots en français pendant que tu parlais en anglais. Donc si je sors 1 ou 2 mots en anglais ce matin, vous allez devoir soit me pardonner, soit me lapider. Alors nous allons lire Marc chapitre 10. Nous continuons notre série dans l'évangile de Marc et nous allons lire les 12 premiers versets de Marc chapitre 10. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui, et, conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari, et on épouse un autre, elle commet un adultère. » Voici la parole de Dieu. Je tiens à remercier les anciens de m'avoir choisi pour traiter ce texte ce matin. C'est vraiment avec beaucoup de joie de leur part. Et nous allons essayer de faire un résumé de l'ensemble de l'enseignement biblique sur le sujet du mariage, divorce, remariage. Alors, 2 mots en préambule. Ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être mis vous-même en jugement. C'est facile de juger quelqu'un qui a divorcé, qui va divorcer, mais Jésus nous dit dans Matthieu 7, ne jugez pas. Un deuxième texte qui va peut-être vous paraître un peu étrange, mais c'est un texte qui était affiché dans la maison de mon père pendant quelques années. Il s'agit d'une prière indienne. Et sur ce texte, dans sa maison, il y avait le texte et une tête d'Indien, donc de peau rouge, comme on dit, ou de Première Nation aux États-Unis. Et voilà le texte. « Au grand esprit, ne permets pas que je critique mon voisin sans que j'aie parcouru 1 kilomètre avec ses chaussures à mes pieds. » Encore, facile de critiquer, de juger. Mais, soyons prudents. Alors, que nous dit ce texte? Alors, d'abord, on va penser à Jésus. Jésus se trouve en Judée, la partie sud du pays d'Israël, après un temps dans la partie nord du pays. Et comme presque toujours, une foule s'est rassemblée auprès de lui. Et il est écrit, comme d'habitude, Jésus enseigna la foule. Cette phrase, comme d'habitude, nous trouvons au moins 2 fois dans les évangiles, dans 2 contextes différents. Jésus avait l'habitude d'enseigner la foule. Il est écrit ailleurs que Jésus s'est mis à l'écart pour, comme selon son habitude, prier seul. Jésus avait deux bonnes habitudes, au moins. Enseigner et prier. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à enseigner. Par contre, nous sommes tous appelés à prier. Prier seul, lorsque cela est possible, et ce n'est pas toujours possible, prier en couple, en famille, entre amis et à l'église. Jésus est là, non pas pour prier cette fois-ci, mais pour enseigner sur un sujet à son époque qui était délicat et à notre époque qui est, on va dire, délicat. Rentrent en scène les pharisiens, les chefs religieux. Et il est bien écrit, ils sont venus pour piéger Jésus. Vous savez, il y a des journalistes qui sont très doués pour piéger les gens qu'ils interviewent à la télé ou dans les journaux. Je me souviens, il y a quelques années, l'archevêque de Canterbury est allé à New York pour des rencontres. Et quand il est arrivé à New York, il sort de son yellow cab, de son taxi jaune, devant l'hôtel, et un journaliste vient nous dire, « Monsieur l'archevêque de Canterbury, est-ce que vous allez passer quelque temps dans les boîtes de nuit de New York ?» Et l'archevêque de Canterbury a répondu avec un brin d'humour, « Y a-t-il des boîtes de nuit à New York ?» Le lendemain, à la une du New York Times, c'était marqué, « La première question de l'archevêque de Canterbury en arrivant à New York est, y a-t-il des boîtes de nuit à New York ?» Piégé et cité hors contexte par les journalistes. Les pharisiens voulaient piéger Jésus, mais Jésus était infiniment plus intelligent et plus futé que l'archevêque de Canterbury. Les pharisiens posent une question qui est courte. Est-ce qu'il est permis de divorcer ? Ils connaissaient la réponse. Ils connaissaient les réponses, les lois du pays et les textes de l'Ancien Testament. Et Jésus, en réponse à leur question, il pose une question. Ça peut être agaçant quand vous posez une question à quelqu'un et la personne vous répond avec une question. Mais Jésus était habitué à faire ça. Et il pose une question pour voir, mais qu'est-ce que vous savez sur la loi de l'Ancien Testament. Si vous êtes intéressé par des statistiques, cette question posée par Jésus, c'est la 119e question posée par Jésus dans les quatre évangiles. Je les ai toutes comptées l'année dernière. En tout cas, les pharisiens citent un texte de l'Ancien Testament où il y a la première mention du divorce et il est question d'une lettre de divorce qu'on peut donner à quelqu'un si on veut s'en séparer. Donc Jésus dit, que dit Moïse ? Et les pharisiens citent le livre de Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, le quatrième livre de la Bible. Tandis que Jésus va plus loin dans les écrits de Moïse. Il cite des textes dans Genèse 1 et dans Genèse 2, qui dit, et on l'a devant les yeux, que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne deviendront qu'un. Un texte assez connu qui est souvent cité lors des mariages. D'ailleurs, dans ce texte, il y a deux mots clés. Quitter, s'attacher à. Lorsque nous avons un couple en difficulté qui vient voir Brigitte et moi, assez souvent, on se rend compte que un des conjoints a difficulté de quitter ses parents ou un parent. Un des conjoints a difficulté à couper le cordon ombilical. Ou alors, on trouve qu'un des conjoints a du mal à rester attaché à son conjoint et est attiré par d'autres hommes, d'autres femmes, à droite et à gauche. Malheureusement, c'est la réalité. Je dis ça en passant. Mais Jésus dit bien, le divorce selon la loi de Moïse, a été permis à cause de la dureté du cœur. Le divorce était toléré selon la loi de l'Ancien Testament. Mais Jésus dit bien, gare à celui qui sépare ce que Dieu a uni. Un texte qui est très souvent cité, sinon toujours lors d'un mariage d'un couple évangélique. Mariage, divorce, remariage. Dans le monde évangélique aujourd'hui, il y a 4 attitudes par rapport au divorce et au remariage. Et je vais vous les montrer. La première attitude est tout simplement divorce, jamais. Remariage, jamais. Je donne des exemples. Imaginez que je suis ancien dans une église où on dit divorce, jamais. Remariage, jamais. OK? Un soir, une femme vient nous voir, ma femme et moi. Elle dit qu'elle est battue constamment par son mari qui est prédicateur dans l'église. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. QDVB. Tu es mariée, tu dois rester avec lui. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ou alors, une femme chrétienne nous dit que son mari abuse de leurs enfants. Est-ce qu'on va dire, mais fiche le camp, fais tes valises et pars avec les enfants? Non. Si je dis divorce, non, remariage, non, je vais dire que Dieu te bénisse, ma sœur. Une femme me dit que son mari a plusieurs amantes et qu'elle a peur d'attraper une MST. Maladie sexuellement transmise. Qu'est-ce que je vais dire? Reste avec ton mari. Tu as promis, le jour du mariage, reste avec lui. Et tant pis si tu attrapes des maladies. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ça, c'est dans ce contexte-là. Certains disent divorce, jamais. Remariage, jamais. Deuxième cas de figure. Divorce, oui. Remariage, non. OK, tu vas te divorcer, tu vas te séparer de ton mari ou de ta femme. OK, mais sache que tu ne pourras jamais te remarier. On prend l'exemple d'une jeune fille à 20 ans. Elle tombe amoureuse, elle se marie, elle va vite avec un garçon, tous les deux dans l'église. Et puis après 2 ans, bon, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment faits l'un pour l'autre. Ils divorcent. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier? Alors, certains vont dire, oh non, jamais. Ils n'ont pas le droit de se remarier. Ils n'ont pas le droit de prendre des responsabilités dans l'église. Ils n'ont pas le droit de prier à haute voix dans l'église. Ils n'ont pas le droit de prendre la Sainte Cène. Ils doivent rester tous les dimanches au fond de la salle. Quel jugement sur ce qu'on peut appeler une erreur de jeunesse peut-être. Je schématise, mais ça existe. Et on peut dire que Dieu vous bénisse. Tant pis, tu vas rester célibataire de 22 ans jusqu'à ta mort quand tu auras 102 ans. Troisième cas de figure, ou troisième attitude. Divorce, d'accord. Remariage, d'accord. Divorce, d'accord. À 2 conditions. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 exemples qui sont donnés pour un divorce, on va dire, chrétien. La première raison est donnée dans le texte parallèle dans Matthieu 19, qu'on ne va pas lire, mais Jésus, dans cette même discussion, il dit que s'il y a un divorce à cause d'adultère, le mariage serait autorisé. Adultère, infidélité d'un des partenaires. Bien sûr, on connaît des couples qui ont connu l'adultère. Mais grâce au pardon, grâce à l'œuvre de Dieu dans le cœur de chacun, il y a pardon, réconciliation. Ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive. L'adultère n'est pas forcément la fin d'un mariage. La deuxième condition, la deuxième raison dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Corinthiens 7, où il est écrit, « Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. » C'est-à-dire, un couple se marie, on va dire, l'homme ou la femme se convertit, et puis petit à petit, le conjoint ne veut plus rester avec un chrétien ou une chrétienne. et décide, j'en peux plus, je pars. Nous avons connu ça dans une église où on était en couple, en responsabilité pastorale. Une femme était arrivée un dimanche matin avec deux petits-enfants et nous explique qu'elle venait de se convertir grâce à des amis et elle voulait venir au culte. Elle vient au culte, elle s'est baptisée. On a rencontré son mari qui était opposé. On a souvent mangé avec son mari qui était s'opposé à la foi de sa femme. Les deux enfants ont grandi, les deux se sont convertis, les deux se sont fait baptiser. Et puis le papa qui était à chaque baptême nous a dit, j'en peux plus. J'ai maintenant 3 dans ma famille, sur 4, je pars. Il est parti. Cette sœur, quelques années plus tard, s'est remariée avec un veuf. Ils ont pris la responsabilité de l'église. Ces deux enfants sont devenus missionnaires et pasteurs par la suite, avec leurs épouses. Divorce, oui, s'il y a le conjoint qui part ou s'il y a adultère, et remariage, oui. Il y a une quatrième attitude. Divorce, oui. Remariage, oui. Après, je n'ai pas mis ça, mais après étude du dossier. Je m'explique. OK, il y a 2 exemples donnés dans le Nouveau Testament. Adultère, le partenaire non chrétien s'en va. Mais est-ce que ce sont les 2 seuls exemples ou est-ce que c'est 2 exemples parmi d'autres? Est-ce qu'on doit se limiter à un divorce avec ces 2 conditions? Je m'explique. Quelqu'un vient nous voir et qui dit, je suis battu par mon mari constamment et je ne supporte pas quand il prêche le dimanche matin. Que je suis au fond de la salle avec des hématomes par-ci, par-là. Est-ce qu'on ne va pas dire à cette femme, oui, pars. Puis les anciens vont s'occuper du frère en question, un beau cadeau. Qui a le droit d'interdire à cette femme de se remarier? Ou si le conjoint entretient des relations malsaines avec un enfant, est-ce qu'on va laisser les enfants en danger? Ou est-ce qu'on veut dire, mais pars. Vous savez, il y a maintenant de plus en plus avec les nouvelles lois qui arrivent, qui ne sont pas toutes des mauvaises lois, mais dénoncer certains actes, dénoncer des abus, que ce soit dans une entreprise, une église ou dans des familles. On a un devoir de dénoncer. Ou alors, si une femme ou un homme vient me dire, mais écoute, ma femme a fait venir des gens à la maison, elle est chrétienne, David, bien sûr, mais elle a fait venir des gens à la maison pour faire des pratiques occultes, pour faire tourner les tables, pour se faire tirer les cartes, pour guérir, entre guillemets, et prier au nom de Judas. Ça existe. Est-ce qu'on me dit, mais tu restes dans cette maison, le Seigneur va te protéger. Il va protéger tes petits. Il y a plusieurs exemples où on peut dire, mais parfois, il faut partir. Ce n'est pas la meilleure solution parfois, mais parfois, il faut. S'il y a danger, qu'est-ce qu'on va conseiller? Et s'il y a danger, vous savez, les féminicides, souvent ça commence avec des paroles, les actes, on frappe, et puis la mort. Et si on est interrogé par la police, mais est-ce que tu savais que cette femme a été battue? On m'a dit oui. Et pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Pourquoi tu n'as pas encouragé que la femme ou le mari? Nous, on a eu des hommes battus à la maison, battus par leur femme, ça existe aussi. Mais pourquoi tu n'as pas agi? Tu es fautif, monsieur David Sutherland. Il y a une autre raison biblique dans l'Ancien Testament par rapport au divorce que j'avais quand même mentionné. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux ou d'inconvenant, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Deutéronome 24, verset 1. Je me souviens qu'Henri Vester, qui a parlé sur le divorce il y a une dizaine d'années, lors d'un week-end d'église Sonara, à Tinoanche, il a expliqué en long et en large ce que ce verset signifiait. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que Il se trouve que, selon ces versets, en couple, on est marié, et après un temps de mariage, on découvre quelque chose chez l'autre. Peut-être que l'autre a déjà 3 enfants dans 3 pays différents. Ou peut-être l'autre a une dette auprès de la Banque de France qui est énorme. Ou autre chose. Ça peut arriver aussi. En tout cas, là, il y a la possibilité d'un divorce. Donc, vous avez, ce verset est hyper vaste. Mais c'est quelque chose de honteux ou d'inconvenant. Donc, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Alors, tout ça pour dire qu'il est arrivé à Brigitte et moi, et je vous le dis en public, sans honte, il nous est arrivé à cause des dangers de conseiller une femme, un homme, de quitter le foyer. Parce qu'on ne voulait pas avoir du sang sur les mains. Et quand on reçoit quelqu'un qui se saigne de partout sur le visage, est-ce qu'on me dit, mais rentre chez toi, Dieu te bénira. C'est une attitude qui existe. Mais parfois, on doit être vraiment sensé tout en étant spirituel. On peut penser aussi à l'attitude de Jésus par rapport au divorce, par rapport à l'adultère. Rappelez-vous la femme samaritaine. Jésus n'a pas attaqué son problème d'adultère tout de suite. Elle était pécheresse aux yeux de Jésus. Elle avait besoin d'être pardonnée, même si elle avait 5 maris et puis un 6e conjoint qui était, concubin. Je pense aussi à la femme prise en flagrant délit dans Jean 8. Tous les chefs religieux voulaient la tuer. La loi l'autorisait. Mais Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, eh bien, qu'il prenne la première pierre. Et tout le monde, plus personne. Tout le monde est parti. Donc tout ça pour dire que il y a des vraies raisons de divorcer. Et il y a des vraies excuses ou des mauvaises excuses. Je n'ai pas le droit de divorcer de ma femme si elle ne met plus le sucre de mon café. Ma femme n'a pas le droit de me divorcer si je refuse de changer les couches du petit. Je n'ai pas le droit de divorcer ma femme si elle n'enlève plus les mauvaises herbes dans mon jardin. Ça, c'est bidon. Mais il y a des choses comme ça qui existent. J'exagère un peu. Mais c'est un sujet vaste. Et on doit être sensé et spirituel quand on traite cela, pour accompagner des couples en difficulté. Et je vous encourage que si dans votre couple, vous sentez que ça ne va plus, ou que ça ne va pas, ou que votre mariage bat de l'aile, je vous encourage vivement à aller voir quelqu'un pour en parler. Parce que la plupart des couples dont le mariage va mal, qui viennent nous parler, ils ont déjà pris une décision. C'est trop tard. Elle a pris une décision, ou il a pris une décision, ou les deux. Ils ont déjà quelqu'un d'autre, ou ils ont déjà loué un autre appartement. Les décisions presque irrévocables ont été prises. Donc, s'il vous plaît, allez voir un des anciens pour en parler. Et pour demander conseil dans la discrétion, dans la confidentialité. Personne ne va en parler si vous ne l'autorisez pas. Alors, il faut dire qu'on a fait tout un tabac au sujet du divorce et du remariage, comme si c'était le péché par excellence. Dimanche dernier, j'étais dans une église en Écosse où on dirait que c'était le péché par excellence. Le plus grave. D'autres chrétiens ont l'impression que certains comportements éthiques que la Bible condamne sont le péché par excellence. Et il faut surtout ne pas laisser quelqu'un entrer dans une salle évangélique qui est coupable de ce péché-là. Et vous savez, tous les péchés se valent. Tout péché est grave aux yeux de Dieu. Si on ne respecte pas un commandement, on est coupable des 10 commandements, nous dit l'épître de Jacques. Je prends un autre cas de figure. je suis ancien dans une église. On va imaginer, je suis ancien dans une église. Le divorce est interdit. Le remariage est également interdit. Un jeune homme arrive, jeune homme, 30 ans, qui n'a jamais été marié, mais qui a eu des multiples conquêtes ou partenaires. Ok, il n'a jamais été marié, mais il a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Il vient dans l'église, il rencontre une jeune sœur, une belle jeune sœur dans l'église, il fréquente, il se marie. L'église va bénir le mariage, parce que lui, il n'a jamais été marié. Bon, il a couché avec 30 femmes peut-être, mais ce n'est pas grave. Il n'a jamais été marié. On va bénir le mariage. Admettons, je suis ancien dans une autre église, dans la même église, et un monsieur arrive, et il dit, mais tu sais, j'étais marié pendant 20 ans. J'aimais ma femme. Ma femme m'aimait. On était fidèles, on priait. Et puis un jour, ma femme a rencontré quelqu'un et du jour au lendemain, elle est partie. Ok, on accueille ce frère. Parfois, avec réticence parce qu'il est divorcé. Il ne faut pas accueillir les divorcés dans cette église-là. Et puis ce frère, malheureusement, il tombe amoureux d'une sœur dans l'église qui n'a jamais été mariée. Et nous, on va dire, oh non, frère, tu ne peux pas te remarier. Tu as déjà été marié. Tu as déjà eu une femme. Et tu n'as pas le droit de te remarier. Tant pis. Donc vous voyez, dans cette église-là, la même église, pour quelqu'un qui n'a jamais été marié, qui a eu 30 femmes, on va dire, on va te marier. Que Dieu te bénisse. Pour quelqu'un qui a été marié avec une seule personne pendant 20 ans, fidèlement, on va dire, non, tu ne peux pas te remarier. À cause d'un morceau de papier. Ou à cause d'un passage devant monsieur le maire ou madame le maire. En tout cas, tout ça pour dire, c'est vaste et c'est facile de jeter la pierre. C'est facile de critiquer. C'est facile de juger. Mais de plus en plus dans nos églises aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens divorcés. De plus en plus de gens qui sont divorcés et remariés et qui arrivent dans une église. Et l'église est ouverte à tous. Et nous devons réfléchir et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, pour conclure, on a tous besoin de la sagesse de Salomon. On a tous besoin de la patience de Job. On a tous besoin de l'amour de Jésus dans tous ces cas-là. C'est compliqué. Je n'ai pas détaillé tous les arguments parce que sinon il faudrait un séminaire de 3 heures. En 27 minutes, j'ai fait un petit résumé. Mais on a besoin de sagesse, de patience et d'amour. Et je conclue de la même manière dont j'ai commencé. Ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être mis vous-même en jugement. Au grand esprit, ne permet pas que je critique mon voisin sans que j'aie parcouru 1 kilomètre avec ses chaussures à mes pieds. Amen. Je laisse JL pour la conclusion. Ça s'appelle renvoyer l'ascenseur.